Gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance dure à toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je trouve ce psaume très beau. Comme un certain nombre d'autres, et dirais, il y a tout dedans, en quelque sorte. Je célèbre Dieu pour ce qu'il est, il célèbre Dieu pour ce qu'il fait dans le monde, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Tous les rois de la terre te célébreront, Dieu a la main sur tout cela. Et puis je célèbre Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Dieu est à la fois ce Dieu créateur immense, que nous n'arrivons pas à faire rentrer dans notre esprit, qui lui est limité, mais il est aussi ce Dieu qui est proche de nous. Et j'insiste peut-être sur le verset 8, qui sera un peu le fil rouge de ce que je vais dire ce matin. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Je trouve que ces paroles sont très belles, et puis en même temps, est-ce que c'est ce que vous ressentez tous les jours? Est-ce que c'est ce que David ressentait tous les jours quand il était en butte à des ennemis, que ce soit des ennemis extérieurs, des ennemis même dans sa famille? Si vous relisez l'histoire de la famille du roi David, ça n'a été que combat, guerre, trahison, etc. quand même. Enfin, pas tout à fait que ça, mais enfin, en tout cas, ça l'a obligé à guerroyer assez souvent. Est-ce qu'à chaque instant, il croyait ce qu'il écrit là, ce qu'on lit dans ce psaume, si vraiment c'est lui qui a écrit tout à fait tout ce psaume, l'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Quand on regarde de quoi est fait notre vie, Daniel, dimanche dernier, nous a parlé au travers d'un chant de Philippe de Courroux, hein, on parlait de souffrance, on parlait d'injustice, on parlait de guerre, on parlait de choses comme cela, et nous chrétiens, est-ce que nous sommes épargnés? Non, je pense que nous ne sommes pas épargnés. Voilà, en écrivant ça, je pensais à ces gens dans l'Aude, hein, qui ont tout perdu. Voilà, il y avait sûrement là-dedans des gens qui étaient des serviteurs de Dieu, des gens très fidèles, et puis pourtant, ils ont été comme les autres dans ce malheur. Comment, dans les difficultés qu'on a, chacun, qui sont de nature différente, nous vivons dans un pays qui est plutôt tranquille et calme, même s'il y a de temps en temps des choses qui sont... qui déborde, il y a des gens qui vivent dans des coins du monde où la vie est difficile toujours. Comment survivre malgré tout, avec confiance, et en disant « Dieu mène tout à bonne fin ». Comment garder cet optimisme, nous chrétiens? Après le culte, quand on est là le dimanche matin, ça va, on est bien, on est entre nous, c'est très bien, et ça fait du bien d'ailleurs, et ça fait partie de la nourriture dont on a besoin. Puis après, demain, on va repartir dans son usine, son collège, ses activités dans sa maison, etc. Et est-ce qu'on pourra continuer à croire ça et à écouter cette parole de Jésus? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Plusieurs fois dans les dimanches, les mois passés, on a ce verset revenu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et qui portera un message positif dans le monde? Et c'était un peu la pointe du chant de Descourous, hein, qui va se lever pour porter le message. Je vais donner un autre exemple dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, que je trouve intéressante par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est un peu plus tard dans l'histoire, enfin c'est même longtemps après le roi David, tout le peuple d'Israël a été déporté. Hein, si vous lisez l'histoire, en deux fois, il y a eu d'abord le royaume du Nord, je ne sais plus en quelle année, puis en 586 avant Jésus-Christ, c'était Juda, donc Jérusalem. Ces gens-là ont tous été déportés, c'était des circonstances très difficiles. Puis à peu près 50 ans après, il y a un édit du roi de Perse, Cyrus, qui autorise les gens à rentrer et à rebâtir la ville de Jérusalem. Donc un certain nombre de personnes vont effectivement aller retourner au pays et recommencer à reconstruire. Mais il y a des ennemis qui sont là et qui trouvent pas très très sain de laisser ces gens-là qu'on a battus reconstruire leur ville, des murailles. Des murailles, ça veut dire qu'on est prêt à faire la guerre, qu'on est prêt à des hostilités. Donc, ils vont faire en sorte, ils vont intriguer pour qu'on interrompe les travaux. Et puis, pendant plus d'une quinzaine d'années, les travaux sont interrompus. Et puis, il y a un nouveau roi qui arrive, qui s'appelle Darius, et à qui on dit, mais si, si, il faut regarder dans les textes anciens, regarde, et il retrouve. Et de nouveau, les gens vont pouvoir recommencer à reconstruire. Et puis, tous ces mouvements là, du retour dans le pays promis, il y a un moment où un certain Esdras va se préparer lui aussi, avec plein de gens, à rejoindre la terre de ses ancêtres. Vous lirez tout ça dans le livre d'Esdras, hein, c'est une histoire qui est intéressante, parce que montre que les choses n'étaient pas faciles à ce moment-là, mais ce que je voulais juste vous lire, c'est au moment où Esdras est en train de se préparer à partir, donc il fait la liste, c'est dans Esdras au chapitre 8, il y a la liste de tous les gens qui sont venus avec lui, le nombre des personnes qui faisaient partie de sa troupe. Et Esdras 8, 21, « L'après du fleuve, je proclamai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » On retrouve cette idée non seulement que la main de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui le cherchent, comme dans le psaume, hein, où on disait « L'Éternel met tout à bonne fin pour moi ». Mais en plus de ça, Esdras, il en avait fait la publication, il avait témoigné, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Il était un peu coincé par ce qu'il avait dit. Il aurait pu demander au roi une escorte pour être sécurisé, mais il dit non. On a dit notre foi en Dieu. On a dit que Dieu nous protège en toutes circonstances. Et donc notre vie doit être en conformité avec ça. Et je n'ai pas besoin de l'armée, du roi de Perse pour faire mon voyage, puisque je sais que Dieu veille sur moi. Je trouve que c'est un élément de plus. Non seulement on le croit, mais on le dit. Et comme on l'a dit, on est obligé par nos propres paroles. Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré des circonstances comme ça où on se rend compte dans notre existence ou dans nos paroles qu'on fait ou qu'on dit des choses qui sont parfois en contradiction avec ce qu'on chante et qu'on prêche le dimanche? Pourtant, si on dit un certain nombre de vérités, la question va être, est-ce que nous le croyons? Là, je parle d'un petit morceau qui dit, voilà, l'Éternel mène tout à bonne fin pour moi, pour toi, pour nous tous, pour tous ceux qui se confient en lui. Mais comme Esdras, si on le dit, demain, il faudra qu'on le vive et que notre confiance soit basée sur cela et non pas sur d'autres protections que nous pourrions aller chercher ailleurs. Et je vais en venir maintenant à un autre texte. Dans l'Épître aux Romains, tous ces textes, enfin ce texte-là en tout cas, est certainement connu de vous tous. Je lis quelques versets dans ce chapitre 8, dont certains ont donc fait l'objet de quelques chants qu'on a chantés. Le début du chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Un peu plus loin, au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu mène tout à bonne fin. « Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et puis la fin magnifique de ce chapitre 8, que certains connaissent sans doute par cœur, « Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Moi, je trouve ce texte toujours très, 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 très beau. Il nous dit vraiment... Voilà, il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi nous pouvons croire, si Dieu s'est engagé avec nous, qu'il mènera toutes choses à bonne fin, puisqu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Ce n'est pas seulement qu'on a gagné le procès, c'est qu'il n'y a pas de procès. Il y a abandon des poursuites, si j'ose dire. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu abandonne toutes les poursuites, comme l'apôtre Paul pouvait l'écrire aux Colossiens, au chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, et dont les dispositions étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. À la croix, Dieu décide d'abandonner les poursuites contre l'homme pécheur, contre celui qui reconnaît et accepte que la croix permet l'abandon des poursuites. Et puis ce verset 28, nous savons que toutes choses coopèrent au bien, au concours, comme on disait dans le temps, dans les versions un peu plus anciennes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset qu'on a appris par cœur pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, quand on était jeunes. Dieu mène tout à bonne fin. C'est lui qui s'engage, comme le psalmiste le disait, comme Esdras le vivait et était obligé de le vivre puisqu'il en avait témoigné, parce qu'il nous aime d'une manière qui... parce que Dieu nous aime d'une manière qui nous échappe, sûrement, parfois. Peut-être qu'il peut nous gêner, même. Je suis comme, vous savez, le fils prodigue, quand il revient, il est sans doute gêné de voir son père arriver et ouvrir les bras. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un serviteur. Je ne vaux rien. Et la réponse de Dieu, c'est, viens, allez, on change tes vêtements parce que tu es un peu crasseux, on se met en habit de fête et on va faire un festin parce que mon fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort et maintenant il est vivant de nouveau. Et c'est ce verset dans le chapitre 8 que je n'ai pas lu, mais qui a été cité tout à l'heure. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Père, non pas Père majestueux, etc. Il l'est aussi. Mais Père comme celui qui est à côté de moi, qui tient ma main quand le chemin est difficile, qui va m'aider peut-être à traverser... un torrent là qui peut menace de m'emporter. Voilà, c'est ce papa là où il me prend la main sur les épaules, parce qu'au bout d'un moment, quand on a marché 2 heures, je suis fatigué. Voilà ce Dieu, ce Père qui nous a adoptés. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis la fin de ce chapitre 8, qui peut nous nuire? Qui peut nous faire du mal? On vivra encore des temps difficiles, il n'y a pas de raison. Notre vie va continuer avec ses souffrances, ses deuils, ses périodes compliquées. Mais Jésus a tout payé. Et nous sommes, c'est nous-mêmes qui parfois nous enfermons dans ces difficultés de la vie. C'est nous-mêmes parfois qui n'arrivons pas à sortir de ce qui nous pèse et qui n'arrivons pas à dire « Seigneur, délivre-moi puisque tu mènes tout à bonne fin pour moi. Tu as un plan, c'est toi qui tiens la carte ». C'est toi qui es le GPS, comment il faudrait dire. C'est toi qui vois la direction, qui sait où on va. Donc, délivre-moi de ce qui pèse sur moi et qui m'empêche de croire et de comprendre que Jésus a tout payé. Et puis, la fin de ce texte que je disais, nous sommes plus que vainqueurs. Ça ne vous étonne pas, cette phrase-là, vainqueur, c'est déjà pas mal, non ? Non, on est vainqueur, on est numéro 1, il n'y a pas mieux, c'est dans n'importe quelle compétition. Mais l'apôtre Paul en rajoute. Non seulement on est plus que vainqueur, non seulement nos fautes sont effacées, non seulement par rapport à cela, il n'y a plus à craindre l'accusation, mais en plus Dieu nous adopte comme ses enfants, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et nous passons du statut de personne qui était coupable aux yeux de Dieu à quelqu'un qui non seulement n'est plus coupable, puisqu'il n'y a plus d'acte d'accusation, mais que Dieu accueille dans sa famille et qui nous permet d'entrer dans le royaume, d'entrer dans cette vie éternelle dès maintenant, pas en attendant, pas après notre mort, mais dès aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui dit ça dans Jean 17, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors tout ça peut être, encore une fois, et je parle pour moi avant tout, de la théorie. Est-ce que dans la vraie vie, tout ça va transformer nos façons d'exister? Est-ce qu'une fois passé le fait de réciter ou de lire ou de relire pour la 100e fois peut-être des textes et de les trouver toujours aussi beaux, ce que je viens de faire là depuis 10 minutes, est-ce que nous le croyons vraiment? Et est-ce que ce n'est pas ça que nous devons demander à Dieu? Aide-nous à le croire vraiment. J'ai pensé à, vous savez, ce jour terrible Lazare est mort depuis quelque temps et Jésus arrive. Et puis il y a les sœurs de Lazare qui successivement vont le trouver. Toutes les deux, elles vont lui dire « Ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Voilà, etc. Et Jésus dit à Marthe en particulier « Mais moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Crois-tu cela ?» Ce n'est pas une formule liturgique qu'il fallait que Marthe entende et qu'elle soit capable de répéter. Il fallait qu'elle le croie, qu'elle puisse dire oui. Et qu'est-ce qu'elle répond ? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. La foi de Marthe était sans doute pas plus parfaite que la nôtre. Elle a fait ce geste de foi. Après, voilà, on ne sait pas. Et c'est comme notre vie à nous. Le chemin n'est pas une droite, quelque chose de tracé très, très linéaire. Mais il a fallu qu'elle se saisisse de cette parole. De ne pas seulement en faire une parole théorique. Avant, il y avait... Si vous regardez les échanges entre Jésus et Marthe, crois-tu que ton frère peut ressusciter ? Oui, oui, je sais qu'il ressuscita au dernier temps, le dernier jour, il y aura la résurrection des morts. Et là, elle récitait son catéchisme. Et puis Jésus lui dit, mais arrête avec ta théorie, moi je suis la résurrection, la vie. Crois-tu cela, toi ? Et puisque tu crois cela, ton frère ressuscite. Et Lazare sort du tombeau quelques instants après. La question c'est, sommes-nous prêts à vivre cette vie libérée véritablement, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ça aussi, ça a été dit ce matin. Alors, voilà, nous aurons toujours la tendance à croire que c'est par nos propres forces ou que nos propres efforts vont servir à quelque chose pour équilibrer cette équation entre nos défauts et nos qualités. Nous sommes faits comme ça. Nous avons toujours envie de maîtriser ce qui se passe, de maîtriser et donc de prouver qu'on a apporté, on a fait notre travail, quoi, on a fait notre quote-part. Ça peut être des engagements dans la vie, ça peut être des actes même religieux, ça peut être même notre témoignage, ça peut être des choses comme ça qu'on voudrait valoriser. J'ai lu quelques paroles de saint Augustin qui disait « Quelqu'un ayant entendu le verset » c'est dans le psaume 50, « Offre à Dieu un sacrifice de louange », c'était dit, voilà, tous les jours, en me levant, j'irai à l'église, je chanterai un hymne du matin, en fin de journée, un hymne du soir, puis chez moi un troisième et un quatrième hymne. Comme ça, tous les jours, je ferai vraiment un sacrifice de louange et je l'offrirai à mon Dieu. » Et saint Augustin de commenter, « C'est bien de faire ainsi, si tu le fais vraiment, mais garde-toi de te rassurer sur ce que tu fais et crains que, tandis que ta langue parle bien devant Dieu, ta vie ne parle mal devant lui. » Prends garde de vivre mal tout en parlant bien. Ce que nous allons faire et mettre en avant n'a que peu de poids par rapport à ce que Dieu lui-même a fait. Parce que nos faiblesses, nos souffrances, nos erreurs, nos chutes seront toujours là qui n'en a pas fait, qui ne s'est pas senti repris, comme je le disais tout à l'heure. Et pourtant, nous devons entendre ce verset qui dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation ». Et il faut entendre Jésus qui nous dit « Le crois-tu ?» Comme il a dit à Marthe, « Le crois-tu que je suis la résurrection et la vie ? Crois-tu qu'il n'y a plus aucune condamnation ?» Je vais vous lire quelques passages d'un livre que j'ai lu aussi dans une maison sérieuse, que j'ai acheté dans une maison sérieuse, dont on a déjà parlé ce matin, qui est écrit par un théologien protestant. « L'amour, la fidélité, la compassion, la confiance font partie des grandes vertus du christianisme. » À sa manière, le Christ les enseigne, les incarne, les chrétiens y aspirent et s'y essayent. Mais il est une autre vertu chrétienne, moins connue, rarement évoquée, hélas trop souvent négligée, la jovialité. Cette gaieté franche, simple, communicative est pourtant une leçon d'évangile. Né le dimanche de Pâques, le christianisme est un pied de nez à la mort. Il sonne le glas de nos aliénations intérieures, libère du poids de nos échecs, dissipe nos zones d'ombre. Le christianisme est la religion de l'homme debout, la fête d'une humanité aimée de Dieu, c'est-à-dire sauvée du médiocre et de l'insignifiance, continuellement attirée vers une libération, un espoir, le royaume. Le christianisme est cet appel à être heureux, en dépit du malheur. Heureux les pauvres, osent clamer Jésus à la face du monde, parce que le christianisme est un optimisme. La jovialité est l'une des plus belles manières qui soit d'être chrétien. Ne pas s'arrêter à l'apparence des choses, résister à la facilité du déni et de la critique, dire oui à la vie, un oui assez franc, pour faire chavirer nos froideurs, nos aigreurs, nos amertumes. Être jovial, c'est faire comme si de rien n'était, Car rien, en effet, ni le mal, ni l'échec, ni la souffrance, ni la désolation, ni la laideur, ni le médiocre, ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, on retrouve cette idée, ne saurait entamer la valeur que Dieu nous accorde. Il faut imaginer un Dieu jovial. Voilà, j'ai trouvé que c'était une façon intéressante de nous dire que ce que nous disons, ce que nous croyons, doit faire de nous des gens qui le portons sur notre visage. Pas qui est un pied de nez à la mort, j'aime bien cette expression. C'est un pied de nez à la mort, la mort a été vaincue. Et Dieu nous prend par la main pour nous dire, voilà, je te mène jusqu'au bout et je vais te guider jusqu'au bout. C'est un pied de nez à la mort, à tout ce qui nous tire vers le bas, à tout ce qui nous empêche de nous voir comme Dieu nous voit, ses enfants libérés, parce que entrer dans la vie éternelle, ça ne veut pas dire que nous serons heureux tous les jours. Ça ne veut pas dire ça. La vie a son quota de difficultés, de malheurs. Donc il y a des jours où on est triste et on est légitimement triste. Ça n'est pas, c'est pas ça qui est dit, c'est pas un drame si on est triste, quand on est affecté par un deuil, par une souffrance, qu'elle soit personnelle, plus lointaine, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que nous acceptons que Pâques vraiment efface tout ce qui peut durablement nous entraîner vers le bas et nous empêcher de voir Dieu comme Dieu lui-même nous voit? Alors il ne s'agit pas de se retirer du monde. Certains le font, ils vont dans un monastère et se retirent de tout, comme ça c'est une façon de ne pas être atteint par tout un tas de difficultés. Il ne s'agit pas non plus de développer un espèce de cynisme où on dit non, moi tout va bien, vous savez, c'est je suis bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ce genre de jovialité. Il ne s'agit pas d'être insensible à tout ce qui se passe autour de nous, aux misères de nous et des autres. Il ne s'agit pas non plus de minimiser ce que ça doit avoir comme conséquence dans nos vies concrètes, les changements parfois radicaux que nous devons éventuellement opérer dans nos vies pour être cohérents et pour que on puisse faire comme Esdras, hein, quand on a dit « Je sais que le Seigneur mène tout à bonne fin, donc je ne vais pas te demander une armée », pour être cohérent et que les gens voient que notre discours, il est véritable, il est le fruit d'une véritable foi que nous avons en Dieu. Ça suffisamment de textes dans la parole de Dieu qui nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Nous sommes invités à ce que cette foi en Dieu, cette foi dans la puissance de son amour pour nous, il n'y a plus aucune condamnation. Nous sommes maintenant ses enfants et donc nous sommes appelés à vivre comme étant ses enfants. Et chacun a son chemin. Il n'y a pas de règle toute faite. Au jeune homme riche, dans l'Évangile, il dit « Va, vends tout ce que tu as ». À la femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus ». À Zachée, il dit « Hâte-toi, descends de ton arbre, descends de ta supériorité, descends de ta position sociale. Hâte-toi de descendre, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. » Au brigand sur la croix, il dit « Voilà, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Chaque situation est particulière, chaque relation est précieuse aux yeux de Dieu qui nous parle. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de lui demander de nous convaincre, jour après jour, instant après instant, que par la croix, non pas par nos propres forces, mais par la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà ce que je lisais, moi, dans ce terme de jovialité, qui veut dire que nous ne serons pas atteints définitivement par des souffrances ou par des difficultés, parce que même si nous allons nous y engager pour essayer de les réduire, pour travailler à être nous-mêmes plus conformes à ce que nous disons, en même temps, nous savons que nous n'avons pas toutes les cartes, et que c'est Dieu qui mène tout à bonne fin pour nous. Alors je vais terminer avec ce texte de l'épître de Paul aux Philippiens. Quand Paul écrit aux Philippiens, il est en prison, il est assez proche de la fin de sa vie. On pense que c'est sans doute une des dernières épîtres qu'il a écrites. Et on sait que sa vie s'est plutôt mal terminée. Donc il avait toutes les raisons de ne pas être très heureux ou beaucoup de raisons d'être un peu dans la tristesse. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière, la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que le Seigneur nous aide à le croire. Le crois-tu, tout cela? Le crois-tu qu'il n'y a plus aucune condamnation? Alors, mets-toi debout et va vivre la vie que le Seigneur a préparée pour toi, en sachant que quoi qu'il arrive, c'est lui qui mène tout à bonne fin pour nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous voulons revendiquer cette position, parce que c'est toi qui nous la donnes, c'est toi qui nous l'a acquise par ton sang sur la croix. C'est toi qui nous permets aujourd'hui non seulement d'être lavés de toute faute et que il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation, mais en plus tu nous appelles à être tes enfants. Tu veux nous prendre par la main, tu veux nous aider à vivre et à vivre chaque jour de la joie que tu nous donnes, de cette liberté que tu nous donnes, de cette envie de le dire, parce qu'être chrétien, c'est être debout, affronter la vie, mais l'affronter avec un Père qui nous tient par la main et qui va nous mener jusqu'au bout du chemin, parce que toi, tu mènes tout à bonne fin. Amen.